Jean Telet, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Ben, ça va pas mal. Ça va vraiment pas mal.
Ça va ? Ça se passe bien ?
Oui, ça se passe bien.
Alors, merci. Vous êtes avec nous à Bordeaux pour nous présenter Crénom Baudelaire aux éditions Mialet Barreau. Alors, c'est le premier point commun que vous avez avec Baudelaire, finalement, c'est que vous êtes très fidèle à votre éditeur.
Ouais, oui, absolument. J'ai changé de maison d'édition, mais pas d'éditeur. C'est eux qui ont décidé de partir, de monter leur propre maison d'édition. Ils m'ont demandé si j'acceptais de les suivre, et j'ai répondu oui, parce que quand j'ai commencé mes premiers livres et qu'ils ne marchaient pas très très bien, j'ai vu comment ils se comportaient, c'était des éditeurs formidables. Et donc voilà, j'ai décidé de les suivre. Et puis là, j'ai eu le premier auteur d'une nouvelle maison d'édition.
Ça claque.
Ça arrive pas souvent. Hein.
Alors, donc Baudelaire. Alors, ce livre s'appelle Crénom Baudelaire, ça pourrait s'appeler Sacré Baudelaire, quand même.
Ouais, ben Crénom, d'ailleurs, ça veut dire, c'est la contraction de Sacré Nom de Dieu. Et c'est ce qu'il a dit le 15 mars 1866, il était en Belgique, à Namur. Il sortait de l'église Saint-Loup qu'il visitait avec son éditeur et un jeune peintre qui s'appelait Félicien Rops. Et en passant le portail, il a loupé une marche. Il a basculé en avant sur le front en disant crénom, comme quand je sais pas quoi, si on fait tomber un truc, on fait oh merde. Et lui, il a fait crénom, et il est tombé sur le front et il est resté bloqué sur ce mot plus d'un an et jusqu'à sa mort. Et il a jamais dit autre chose que crénom. Et ce qui est quand même pas de bol pour quand on a été une sorte d'Everest de la poésie, qu'on a fait des phrases tellement formidables et tout, rester bloqué sur un mot comme ça. Et alors, quand il était content, il faisait crénom. Quand il était fâché, il faisait crénom. Enfin bon, voilà. Et puis, il est mort en disant crénom.
Comment vous avez trouvé toutes ces archives ?
En lisant des biographies. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de choses écrites sur Baudelaire, les biographies, et puis plus que les biographies, encore les témoignages de ceux qui l'avaient connu, qui plus tard en ont parlé, des gens comme Nadar, son grand copain Asselineau et tout ça, et Théophile Gautier, et puis des gens qui s'appelaient Champfleury, tout ça, qui racontaient des anecdotes qu'ils avaient vécu avec Baudelaire, et j'ai ramassé tout ça. J'ai passé plein de mois à lire tout ce que je pouvais. Puis au bout d'un moment, je me disais voilà, je suis armé jusqu'aux dents et je peux me lancer dans le livre.
Ça, c'est un des livres qui vous a demandé le plus de recherche. On a cette sensation en le lisant. En
tout cas. Oui, c'est un gros, gros boulot de préparation, oui, bien sûr. Oui, puis surtout que je raconte sa vie de l'âge de 5 ans jusqu'à sa mort à 46 ans. Donc, il fallait que... Oui, c'était un gros travail, oui, bien sûr.
On a l'impression que les dialogues, les moments où sa mère parle de lui en disant « De toute façon, il n'est pas familier du bonheur, il ne le sera jamais », on a l'impression que vous avez trouvé cette phrase, quasiment, votre
oui, livre. Oui.
Oui.
Ah ben oui, oui, mais... il y a beaucoup de scènes dialoguées dans ce livre entre Baudelaire et sa mère. Plus qu'il y en a eu dans la réalité, mais il s'écrivait beaucoup. Et coup de bol, Baudelaire, quand il écrivait à sa mère, il écrivait d'une façon parlée. Et du coup, je pouvais reprendre des phrases qu'il avait écrites, et pareil pour sa mère. Et plutôt que de les mettre pas en correspondance dans le livre, ce qui aurait été rasoir, j'ai fait en dialogue, mais j'ai essayé de mettre tout ce que je pouvais de phrases de Baudelaire dans ce livre. J'ai voulu qu'il y ait des poèmes en entier, des fois des extraits de poèmes en italique, des fois juste un vers mêlé au texte, et même dans mes descriptions, dans les trucs, essayer de placer des bouts de phrases, des bouts de vers de Baudelaire pour qu'ils soient partout dans le livre, quoi.
C'est un travail très minutieux. Vous publiez aussi son écriture?
Oui, les corrections, oui, parce qu'il a été pénible avec tout le monde, dont avec les compositeurs qui étaient à Alençon et qui, une fois qu'il avait écrit ses poèmes, à l'époque, à l'imprimerie, c'était des lamelles de métallique avec les lettres en relief et tout. Et il y avait des compositeurs qui à partir de ses poèmes, composaient les pages, lui envoyait pour savoir s'il y avait des rectifications, quelque chose qui lui allait pas, ou s'il changeait un peu d'avis. Et normalement, c'est simple, mais avec Baudelaire, ça n'a pas été simple du tout, parce qu'il n'arrêtait pas de changer, il les a emmerdés, mais c'est pas, ils en pouvaient plus, les compositeurs. On connaît leurs prénoms, Lucienne et Denis. À la fin, ils voulaient travailler plus que 2 heures par jour sur le livre de Baudelaire. Et dans l'imprimerie d'Alençon, personne voulait travailler sur le livre du dingue, il disait, parce qu'il était insupportable. Et il les engueulait et tout ce qu'il y a dans le livre, on a retrouvé ça à la Bibliothèque nationale de France, c'est la vraie écriture de Baudelaire et les vrais commentaires. Il était pénible. À un moment, son éditeur dit, alors, là, sur ce poème, là, vous avez entouré en gros un F. Qu'est-ce qu'il a, ce F? Et Baudelaire, il dit, il est un peu trop penché. Eh ben, il est un peu trop penché, c'est un F italique, c'est normal qu'il soit penché. Oui, mais il est un petit peu trop penché. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le redresser un petit peu. Et alors c'était pratique, après il fallait donc limer la borde de la petite lamelle d'acier, mettre une petite cale pour redresser un petit peu le F.
Tout est un travail d'orfèvre hein, quand même. On se découvre. Alors c'est l'histoire de Baudelaire et en même temps on a l'impression que c'est aussi l'histoire des Fleurs du Mal parce qu'en réalité c'est l'histoire de sa vie.
Ouais, oui.
Les Fleurs du Mal.
Mais de toute façon c'est l'auteur d'un livre Baudelaire, c'est les Fleurs du Mal. Il a fait évidemment les traductions des livres d'Edgar Poe. Il a écrit les Paradis artificiels, des choses comme ça. Mais ça c'est pas terrible, les paradis artificiels. Bon, il faisait ça pour essayer de gagner un peu de sous et tout, mais c'est l'auteur d'un livre. Les Fleurs du Mal, la première édition, c'était 100 poèmes. Et sur 100 poèmes, il y en a eu 13 qui ont été attaqués en justice. Ça, c'est classe, ça.
Faut dire qu'il y allait quand même. Hein.
Ah ouais, ouais, il y allait, ouais. Et il était attaqué pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, et puis pour mise à néant des chères croyances du christianisme. Et c'est vrai que côté christianisme, il y allait aussi. Il y a un poème qui s'appelle Le reniement de Saint-Pierre. Je sais pas si je vais bien savoir dire le début, mais je crois que ça démarque par. Qu'est-ce que fait donc Dieu de ce flot d'anathèmes qui monte tous les jours vers ses chers séraphins? Tel un tyran gorgé de viande et de vin, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes. Et quand même, comparer Dieu à un tyran gorgé de viande et de vin sous Napoléon III. Et le dernier vers du poème, c'est Saint-Pierre a renié Jésus, 3 points de suspension. Il a bien fait et hop là et ouais. Donc évidemment ça faisait tousser tout le monde à l'époque.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez commencé par partir de poèmes en vous disant finalement je vais construire mon livre avec ces poèmes là que je mettrai dans mon livre, ou en écrivant vous avez eu envie de...
Ouais, non, c'est la deuxième truc. De toute façon je raconte sa vie dans l'ordre et puis je voulais aussi raconter comment certains poèmes avaient pu être écrits, par exemple l'Albatros. On sait que c'est à cause d'un voyage sur un bateau où il était pénible avec tout le monde. De toute façon Baudelaire était pénible avec tout le monde et puis qu'on voit son poème et j'avais envie aussi que par moment dans le livre quand on suit ses frasques où il est insupportable et de temps en temps mettre un poème et qu'on se dise ah mais la vache il écrivait ça et tout d'un coup c'est d'une beauté, c'est d'une perfection mais Baudelaire c'était un type qui avait très très peu d'amis parce que vraiment il fallait se le fader hein. Il avait très peu d'amis, il détestait tout le monde mais il se détestait lui aussi. il a dit des phrases absolument extraordinaires, comme une qui, où il dit « Si j'avais un fils qui me ressemble, je le tuerais par horreur de moi-même. » C'est quand même pas mal, ça. Ouais. Il disait « Mécontent de tous et mécontent de moi. » Et c'est en ça qu'il est touchant. Souvent, les gens qui râlent après tout le monde, ils disent « Oh, de toute façon, sur Terre, il y a que des cons et tout. » Eux, ils s'isolent, c'est-à-dire, c'est moi, je suis bien, mais tout le reste, c'est des abrutis. Et Baudelaire, non, il se mettait dans le tas, quoi.
Et c'est une histoire d'amour, avant tout. C'est une histoire d'amour déçu. Il est.
Ouais, mais c'est vraiment ça. L'histoire de Baudelaire, en fait, elle est vraiment simple. C'est un traumatisme d'enfant. C'est un enfant qui a 5 ans. Aimait sa mère, mais de façon anormale, quoi. Il était ultra sensible et il avait un amour, mais dément pour sa mère, à tel point qu'il a raconté plus tard que quand sa mère devait quitter l'appartement où ils habitaient, la maison où ils habitaient, il était tout d'un coup en manque, mais comme en manque d'une drogue. Et pendant que sa mère était pas là, il allait dans la lingerie ouvrir le panier en osier et il plongeait sa tête dans le linge sale de sa mère pour respirer son linge sale, ses culottes sales. C'était sa dope, quoi. Donc c'était pas tout à fait normal. Et à 5 ans, son père meurt, le père qui avait 34 ans de plus que sa mère. Son père meurt. Et pour Baudelaire, ça n'a pas du tout été une mauvaise nouvelle, bien que le père n'avait jamais été désagréable avec lui. Mais parce que tout d'un coup, il se disait, voilà, j'ai ma mère pour moi seul. Et manque de peau, 19 mois plus tard, ce qui n'est pas long, la mère s'est remariée avec un commandant qui s'appelait Jacques Pic, commandant qui ensuite allait finir sa carrière générale et même sénateur d'Empire, que Baudelaire détestait et tout. Et
il lui rendait bien, d'ailleurs.
Oui, mais ceci dit, c'était pas difficile d'en vouloir à Baudelaire, parce qu'il a rien fait pour se rendre aimable. Mais ce gamin, à 6 ans, a fait un truc symbolique qui lui ressemble bien, c'est que le soir du mariage, lors du buffet dînatoire, 13 rue Hautefeuille, là où ils habitaient, le gamin Baudelaire est monté, a fermé à clé la porte de la chambre conjugale et a jeté la clé dans le puits du jardin. Au moins, là, le symbole était vraiment clair. Et il a souvent dit que le remariage de sa mère, ça avait été sa blessure fondamentale. Sa blessure fondamentale, c'est-à-dire c'est qu'il se considère comme le fruit de cette blessure-là. Et ensuite, il a dit, depuis la première qui m'a trahi lors de ma prime enfance, j'ai dorénavant d'odieux stéréotypes à l'égard des femmes. En un mot, je ne leur fais plus aucune confiance. Et il est devenu d'une misogynie, mais de malade. Et il s'est mis à devenir avec les femmes absolument sadiques, pervers, cruels, masochistes. Enfin, il a été incroyable. Il y en a une d'elles qui avait dit... avoir une relation intime avec Baudelaire, c'est comme une opération chirurgicale sans anesthésie. Et lui disait, la volupté gît dans la certitude de faire le mal. Il a eu des rapports très, très, très rock'n'roll avec les femmes. Ceci dit, il n'a pas eu de bol. Hein. La première qu'il a eue, qu'il a dépucelée, lui a collé la blénorragie. La deuxième lui a collé la syphilis. Alors déjà qu'il faisait pas tellement confiance aux femmes, c'est pas ça qui l'a arrangé, quoi.
Mais quand même, avec Jeanne Duval, avec qui il a passé quasiment toute sa vie,
ouais.
Qui était donc une femme qui était aussi malheureuse que lui,
ouais.
Il est assez tendre malgré tout sur la fin de sa vie. Il
ouais.
en prend soin.
Mais
il a pas d'argent, mais le peu d'argent qu'il a, il est prêt à lui donner. Donc il y a quelque chose quand même qu'on ressent dans votre livre, c'est que probablement ce type est une raclure, mais en même temps. il pourrait bien devenir quelqu'un d'un peu moins raclure s'il sortait de cette posture qui est un peu suicidaire, non?
Oui, 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 mais vous avez, eh ben, oui, mais ça a été la grande, grande histoire d'amour de sa vie, Jeanne Duval. Et cette Jeanne Duval, elle était vraiment mais faite pour être la muse de Baudelaire, lui qui était tellement étrange et tout. C'est une femme qu'on appelle Jeanne Duval, mais en fait on ne sait pas son nom parce que par moment elle disait qu'elle s'appelait Lemaire, Prosper. On ne connaît pas son prénom non plus parce que souvent elle disait qu'elle s'appelait Berthe, donc on ne connaît pas son nom. On ne sait pas d'où elle vient. On sait qu'elle était métisse ou noire, on ne sait pas exactement. On ne sait pas d'où elle vient, si elle venait d'Afrique, si elle venait de Saint-Domingue et tout. On ne sait pas quand elle est née. On ne sait pas quand elle est morte. On ne sait pas dans quelle fosse commune elle a dû finir. On ne sait rien sur.
Mais on la retrouve dans beaucoup de tableaux, témoignages.
Mais oui, mais alors c'est, elle disait, je suis une nobody. Elle disait une phrase formidable. J'ai égaré mon nom, mon lieu de naissance et sa date dans le linge sale de ma vie privée. Je suis une nobody. Et Baudelaire, ça lui plaisait, cette femme qui, en plus, lui mesurait 1m65, elle faisait 1m84, donc elle était métisse et très très grande. Et lui, il l'exhibait alors que c'était à une époque où il y avait encore l'esclavage en France. Et il adorait l'emmener, par exemple, dans des grands restaurants comme la Tour d'Argent, et d'arriver avec cette grande femme noire à qui il achetait des tonnes de bijoux qui étaient pleines d'or, de diamants et tout. Et parce que ça choquait tout le monde. Il aimait bien ça. Il était toujours dans la provoque. Et quand vous dites qu'effectivement qu'elle a été peinte, et ça aussi, c'est un mystère. Parce que c'est pas n'importe qui l'a peint. C'est Manet, c'est Courbet, ouais. C'est Théophile Gautier qui a fait des dessins. Baudelaire l'a dessiné. Elle ne se ressemble jamais. Donc on sait même pas à quoi elle ressemblait. C'est une femme extrêmement mystérieuse. Et il y a eu un truc vraiment bien avec Courbet. Courbet a fait un très grand tableau de 22 mètres carrés qui s'appelle l'atelier de Courbet, qui se trouve à Orsay. Et Courbet avait voulu peindre Baudelaire et sa muse, donc Jeanne Duval. Donc Baudelaire est assis, comme je suis là, et Jeanne Duval était debout là. Mais les rapports entre Jeanne Duval et Baudelaire étaient électriques. Alors. Donc quand Baudelaire était absolument fâché après Jeanne Duval, il allait voir Courbet en disant « Faut l'effacer, c'est une connasse, elle a rien à foutre à côté de moi, faut la virer, tout ça. » Bon, alors Courbet, il l'effaçait. Et puis après, il se rabibochait avec Jeanne Duval. Il revenait en disant « Ah là là, il faut absolument la remettre, c'est ma muse, elle est formidable et tout. » Courbet la repeignait. Après, Baudelaire retournait voir Courbet. Elle déteste mes chats, elle les jette par la fenêtre, elle les empoisonne, elle me fait venir des chiens dans notre chambre de bonne, alors qu'elle sait que la vue des chiens me fait mal. Faut l'enlever. Oh. Courbet dit, je l'enlève. Mais il lui dit, mais je ne la repeindrai plus jamais. Et puis le temps est passé, et comme elle était de peau sombre et que le mur était blanc, on appelle ça par exsudation ou bien par transparence accrue, elle a réapparu. Elle a transpercé les trucs. Seule. Voilà. Et Courbet disait, ça, cette femme-là, elle vous quittera jamais, quoi. Il dit, c'est le miracle de l'art. Et encore maintenant, si vous allez à Orsay ouvrir ce tableau, on voit Jeanne Duval.
Non,
c'est une histoire merveilleuse. Oui, en plus, un autre truc aussi, c'est que celle qui lui a filé la syphilis, donc elle l'avait eu avant, et puis à un moment, elle s'est retrouvée paralysée, parce que la syphilis, ça faisait ça, et elle devenait tétraplégique. Et Baudelaire passait son temps à lui dire « Je veux prendre la moitié de ton mal ». Et au bout d'un moment, Jeanne Duval est devenue hémiplégique du côté gauche, et quelques années plus tard, Baudelaire est devenu hémiplégique du côté droit. Ça, c'est quand même...
C'est dingue, parce qu'on le mettrait dans un roman, on n'y croirait pas.
Ah oui, mais c'est invraisemblable. C'est Roméo et Juliette, en vrai. C'est incroyable.
Alors, il y a un côté précurseur, un peu. Il y a un côté punk, il y a un côté... vous dites provoque, mais il y a un côté Jean-Paul Gaultier et sa muse. Il y a quelque chose d'assez précurseur dans ce côté. Je suis un artiste.
Oui, mais et quand vous dites punk, vous avez bien raison, parce que... Baudelaire voulait toujours être dans l'apparence. Il voulait toujours étonner les gens, toujours les choquer, toujours les provoquer. Il était tout le temps que là-dedans. Et par exemple, ses vêtements, il embêtait les tailleurs et tout, parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait. Il voulait que ça soit serré à la taille et très évasé aux épaules et tout, ce qui fait qu'il appelait ça des paletots-sacs avec lesquels il s'habillait. Ce qui fait que les gens disaient que quand on le voyait arriver de loin, le bus ressemblait à un pot de fleurs où il y avait le cou qui faisait la tige, et puis sa tête, comme ça, et sa tête qui, souvent, il se faisait teindre les cheveux en vert, ou il se baladait avec des perruques bleues. Quand Jeanne Duval le quittait, et qu'il était en manque d'elle, il faisait un truc que j'aimais bien, il gardait de ses bijoux clinquants qu'il accrochait à ses oreilles, en disant, maintenant, quand je marche, je ne suis plus accompagné que du bruit de ses bijoux. Il se mettait un boa en plume d'autruche couleur fuchsia autour du cou. Il se baladait avec un mouton en laisse dont il avait fait teindre la laine en rose. Mais il fallait toujours qu'il soit comme ça. Et d'ailleurs, on provoque en étonnement. Et d'ailleurs, les gens disaient lui, le soir, rentrant chez lui, Baudelaire doit se coucher sous son lit pour s'étonner lui-même. Il fallait toujours qu'il soit... C'était un dandy et tout. Et il était marrant parce qu'il disait qu'il voulait vivre comme un dandy et qu'un dandy devrait vivre tout le temps dans sa propre contemplation. En fait, qu'il aurait voulu vivre devant un miroir. Et il expliquait aussi que il voulait avoir cette allure de dandy poussée à l'extrême pour faire oublier aux gens qu'en fait il était constitué de muscles, de tissus, d'écoulements liquides, de sécrétions physiologiques. Il ne voulait n'être qu'une apparence.
Et un côté Orlan, c'est-à-dire je suis moi-même une œuvre d'art.
Mais voilà, mais c'est exactement ça, ouais. Et il aimait les femmes que comme ça. Et Jeanne Duval, tout le temps qu'il a eu de l'argent, parce qu'après il en avait plus, mais il voulait qu'elle soit une apparence. Il avait un drôle de rapport d'ailleurs avec les femmes aussi. Il les préférait laides. Il les préférait laides et maigres. Il disait une phrase très étrange, une femme maigre est plus nue que les autres. Les femmes maigres sont plus nues que les autres. Il me paraît que la maigreur est plus indécente. Et sa première, celle qu'il a dépucée, était une petite pute parisienne, une petite pute juive et qui louchait, qu'on appelait d'ailleurs Sarah la Louchette. Et il l'a acheté à un couple de proxénètes qu'on appelait, elle, la clitorifère et lui, glandzingue. Et quand il a voulu leur acheter, les deux macros, couple de macros, dit, mais pourquoi vous voulez acheter celle-là? C'est vraiment la plus moche qu'on a. Et dit, justement, je veux celle qui est immonde, horrible, et dont la famille rougirait et tout.
Non, mais il y a quelque chose de très touchant dans tout ça. C'est-à-dire qu'en même temps, il est plus familier de gens qui sont un peu cassés comme lui, mais quand il est dragué par Apolline Sabatier, qui pour le coup ne
parle
rien.
Alors là, c'est pas de bol.
Bah voilà.
Là, pour lui, c'est pas de bol. Il tombe sur la plus belle femme de Paris.
Mais il en veut pas.
Et Madame Sabatier, tous les grands artistes rêvaient de devenir. D'avoir une vie amoureuse avec Madame Sabatier. Elle les rejetait tous. Elle a dit oui à Baudelaire. Ah, c'était une erreur. Ça s'est pas bien passé du tout. Forcément, il aimait que les moches. Et elle, c'était la plus belle.
Les moches, vous les cassez.
Et les casser, ouais. Et le lendemain du jour où il était avec Madame Sabatier, il lui a écrit une lettre de rupture en lui disant « Je vous prenais pour une déesse et en fait, vous n'êtes qu'une femme. » Ce qui est d'une muflerie. Mais comment on peut faire pire ? Et elle en a été blessée toute sa vie.
Non, mais il y a quelque chose de touchant dans ce personnage qui, à sa façon, alors très brutale et très directe et très rock'n'roll, finalement défend quelque chose de blessé chez les autres ouais, aussi.
Mais oui, mais oui. C'était ces gens-là qui l'intéressaient. Par exemple, aussi, il avait une particularité, c'est qu'il aimait beaucoup les femmes âgées. Et d'ailleurs, il a écrit un long et très magnifique poème qui s'appelle « Les petites vieilles ». C'est d'une fraternité, c'est d'une tendresse pour elle. Et, vous marchez le long des murs, encore honteuses d'exister, etc. Et il les appelait les Èves octogénaires. Et c'était tout à fait neuf. Il aimait les femmes différentes, ou en tout cas correspondant pas aux critères d'un poète ou de n'importe qui aime plutôt une jolie petite gonzesse bien gaulée et tout. Et lui, non, pas du tout. Il disait j'idolâtre le mystère de la laideur. J'idolâtre le mystère de la laideur. La soif de l'inconnu et le goût de l'horrible m'inspirent. C'est ça qu'il a. Et il disait aussi, je veux pétrir la boue pour en extraire de l'or. En fait, c'est comme un orpailleur. C'est-à-dire que c'est dans le laid, dans le bizarre, dans le tordu, qu'il arrivait à en sortir des vers d'une beauté incroyable.
Quel est votre sentiment, gentelé, après tout ce travail d'écriture, et puis à fréquenter quand même Charles Baudelaire depuis un certain temps maintenant. D'après vous, alors quoi, c'était un artiste finalement dans l'âme, parce que il dit qu'il va être poète petit, il l'annonce, il en est certain. Alors c'est quoi? C'était un artiste incroyablement moderne. C'est un type blessé qui a cherché toute sa vie.
C'est les deux. C'était évidemment.
Ou c'est un suicidaire qui finalement s'est tué à petit feu.
Mais oui, mais à propos de suicidaire, il faisait aussi un truc incroyable. Il a vécu au moment où le préfet de la Seine, le baron Haussmann, refaisait tout Paris. Des quartiers entiers et tout pour tout reconstruire. Et lui, il avait un truc, c'est qu'il aimait le soir ou la nuit aller le long des chantiers où il se trouvait qu'il y avait souvent un tonneau de poudre qui allait servir le lendemain à abattre des façades d'immeubles à reconstruire et tout. Et lui arrivait près du tonneau de poudre, il s'allumait un cigare. Et il a dit, il faisait ça pour voir, pour risquer sa peau, pour connaître les plaisirs de l'anxiété, pour faire le joueur, pour rien. Et puis, il repartait à écrire. Et je l'imagine, moi, le Baudelaire, en train de s'allumer le cigare. Et puis, j'imagine le rougeoiement au bout et tout. Mais s'il y a un petit courant d'air, un petit truc de vent qui a une petite parcelle qui va sur le tonneau, mais il faut refaire le quartier, quoi. Et c'est ça, Baudelaire. C'est un mec qui va près d'un tonneau de poudre et qui s'allume un cigare.
Qui joue avec le feu, c'est cadeau.
Ah ouais, c'est vraiment la classe.
Qu'est-ce que vous n'avez pas mis dans ce livre?
Oh non, je crois que j'ai à peu près tout mis. Ouais, tout, en tout cas, je me suis rien interdit. Ouais. Je me suis rien interdit, mais même une scène dans un bordel avec une prostituée mariée à l'anglaise qui l'a démolie et tout. Et ça aussi, c'est vraiment Baudelaire. Il va dans un bordel qui s'appelle à la feuille de rose. Là, la plupart des prostituées préviennent le patron du bordel. Attention, moi j'y vais plus avec lui parce que là lui, c'est vraiment un dingue. Moi, j'y retourne plus. Et puis, rappelle-toi, l'autre fois, machine, on l'a retrouvée à l'hôpital et tout. Et puis, bon, il y en a une, Maria Langlaise, avec qui il se comporte, mais alors, mais comme un chien, quoi. Et le lendemain matin, il écrit à Madame Sabatier un poème d'une beauté, d'une pureté, encore dans le bordel, hein, avec l'autre qui était en sang et tout, qui s'appelle L'aube spirituelle. Un poème d'une beauté invraisemblable qui a écrit une nuit d'orgie et tout. Enfin, c'est ça, Baudelaire. C'est un truc tellement étrange et tellement extraordinaire.
Qu'est-ce que vous avez avec les poètes, Jean Tellet? C'est pas la première fois que vous vous attachez à la vie d'un poète.
Ouais, mais je l'ai choisi un petit peu spéciaux. Ouais, ouais. Parce que Rimbaud, c'était un mec infréquentable. Verlaine, absolument infréquentable. Villon, épouvantable. Mais là, Baudelaire, c'est la queue du Mickey, là. Je vais arrêter là, parce que pire, il n'y a pas, quoi.
Mais c'est quoi votre rapport à la poésie, pour avoir eu envie de passer du temps à fréquenter ces poètes
Quand j'étais ado, moi, les Fleurs du Mal, mais c'était... et tous mes copains, on était dingues des Fleurs du Mal. C'était tellement...
subversif.
Oui, 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 oui. Puis ça disait des choses qu'on savait pas qu'on pouvait dire. Par exemple, je raconte souvent que avant Baudelaire a renversé la table de la poésie. Et y a un exemple tout simple, c'est un de ses deux poèmes qui s'appelle Le Spleen. Le premier vers est « Le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle ». Jamais personne n'avait écrit ça. Avant, les autres poètes disaient « Ah, le ciel est sombre, les nuages font ceci, cela ». La phrase, qu'est-ce qu'elle est forte ? Le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Et c'était ça, Baudelaire. Et puis avant, un poète qui emmenait sa fiancée, je sais pas quoi, à la campagne, s'il en fait un poème, il dit « Tu courais à demi nu comme ça, dans les blés, comme tu étais belle, comme l'éternité, parmi les pâquerettes et tout. » Bon, très bien. Baudelaire, s'il emmène sa gonzesse à la campagne, il écrit quoi ? Une charogne, en disant « Voilà, et tout ça, et puis on a vu un truc, et tu vas devenir ça, et quand, je connais pas par cœur, mais quand la vermine... Te mangera de baisers, je sais pas quoi, dis-lui que je garde la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. L'autre, il l'emmène à la campagne. Tout ce qu'il a à lui dire à sa gonzesse, c'est qu'elle va être un tas de vermine. C'était assez neuf. Et il y a des poèmes de Baudelaire. Baudelaire vivrait maintenant, mais il serait en prison. Il y a un poème aussi qui s'appelle « Le vin de l'assassin ». Alors ça démarre un peu du genre « Ma femme est morte, je puis enfin boire tout mon soûl. Quand je rentrais sans un sou, ses cris me déchiraient la fibre ». Quelques vers plus loin, il dit « Je l'ai jeté dans un puits ». J'ai mis la margelle et des pavés, tout ça, dessus et tout. Et la fin du poème, ça se termine par « Je m'en moque comme de Dieu, du diable ou de la Sainte Table ». Boum, hop là, c'est envoyé. C'est l'histoire d'un féminicide. D'ailleurs, à propos de ça, quand il avait récité ce poème dans un café, parce qu'il aimait bien de temps en temps aller dans des cafés puis réciter des poèmes et tout, avant d'avoir écrit les Fleurs du Mal, il y avait dans ce café, un comédien à l'époque très connu qui s'appelait Hippolyte Tisserand, qui entend Baudelaire réciter Le vin de l'assassin. Et Hippolyte Tisserand est stupéfait, va le voir et dit « Ben voilà, je suis... donc Hippolyte Tisserand, et l'autre, il savait que c'était un comédien très important qui jouait beaucoup au théâtre de l'Odéon. Il dit « De ce poème, je voudrais que vous en fassiez... une pièce de théâtre en deux actes qui s'appellerait par exemple L'ivrogne, et c'est moi qui jouerai l'ivrogne. Je vous organise un rendez-vous pour un dîner avec le directeur du théâtre de l'Odéon et sa femme. » Baudelaire y va, Et le directeur de du théâtre de l'Odéon dit à Baudelaire, alors notre cher Hippolyte Tisserand dit que vous pourriez faire une pièce de théâtre dans laquelle il voudrait jouer, ça nous intéresse beaucoup. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur la pièce? Et Baudelaire dit oui. Il dit alors, en ce qui concerne le décor, ce serait un cabaret de bord de mer où il y aurait une ambiance de soûlerie maritime. Ça serait décoré avec des perroquets, des singes ramenés des îles et tout. Et là, il y aurait l'ivrogne qui foutrait sur la gueule de sa femme et qui la tuerait à coups de poing, à coups de pied et tout. Voilà, tout ça. Alors déjà, tout le monde devient un petit peu vert. Et puis, le directeur dit, mais alors, et dans le second acte, il dit, dans le second acte, l'ivrogne, pris d'un retour de tendresse, violerait le cadavre de sa femme devant le public. Et là, la femme du directeur, il dit, mais c'est absolument horrible. Et Baudelaire, très choqué, mais enfin, comment ça, madame, et tout le monde en ferait autant. Et ceux qui ne feraient pas ça seraient des originaux. Et après, qu'on lui a dit, alors comment ça s'est passé avec le directeur de l'Odéon? Il dit, ils n'ont pas voulu de ma pièce, disons. Peut-être qu'ils n'aiment pas les ambiances maritimes. Il a voulu proposer la même pièce à la Comédie Française. Il est allé voir un type qui s'appelait Jules Verteuil, qui était le secrétaire général de la Comédie Française, qui était un type tout douceâtre, qui n'aimait que les poésies guimauvées, et Baudelaire le savait, ça. Et il se met qu'à lui raconter des horreurs à Verteuil. Il se met à lui raconter des scènes de torture chinoise et tout ça. Et alors, vous savez, ils font ça et tout. Et puis, ils arrachent le cœur et tout. Et puis, ils le mangent tout ça. En fait, un calembour en action, quoi, et tout. Et l'autre, au fur et à mesure du repas, il passait par toutes les couleurs. Il s'est levé en titubant et Baudelaire l'a accompagné jusqu'à son fiacre en lui disant « L'idéal, mon cher Verteuil, aurait été que vous en mouriez de congestion. Et sinon, alors pour ma pièce de théâtre, c'est oui. » Et l'autre, il n'a même pas répondu, quoi. Mais voilà, il fallait toujours qu'il soit... Un de ses slogans aussi, c'était « droite au pire ». Il fallait aller vers le pire, toujours le pire, le pire, le pire. Ce qui fait que même des fois, je suis sûr qu'il disait des horreurs qu'il ne pensait même pas. Par exemple, j'ai déjà cité ça, mais il y a un alexandrin de Baudelaire, où l'alexandrin, vous allez voir, il est fait impeccable. Techniquement, c'est impeccable. De la nécessité, six pieds, un hémistiche, césure, de battre les femmes. L'alexandrin est impeccable, mais ça dit de la nécessité de battre les femmes. Mais là, il y a un chanteur, un rappeur, un, je sais pas quoi, qui met ça dans une chanson, mais il peut plus sortir, quoi.
En tout cas, il fait le buzz.
Ah, ben c'est plus que le buzz. Voilà, c'est il fallait, et je suis même pas sûr qu'il le pensait, ça, mais il fallait qu'il. Il voulait choquer le plus possible. Il disait aussi un autre truc, avec mon talent désagréable, je voudrais mettre l'humanité tout entière contre moi. Je vois là une jouissance qui me consolerait de tout. C'est quand même un drôle de mec.
Ou alors c'est un côté petit garçon, même pas peur.
Ouais, mais je crois que c'est un grand désespoir. C'est pas par hasard qu'il est associé au mot spleen et tout. C'était un type perdu et je crois, et moi je suis vraiment pas psychologiste, ça me broute la psychologie, mais là avec Baudelaire, cette histoire de d'amour d'enfant, d'ailleurs il a souvent dit aussi que à propos de sa mère, ma mère a été mon premier et dernier amour et il s'en est jamais remis de
c'est ça amour. Qui vous a décidé à écrire sur Baudelaire?
Ouais, j'aimais bien ça. Oh, puis une autre idée à la con qu'il a eue, qui était formidable aussi, c'est que quand il a eu fini d'écrire Les Fleurs du Mal, et qu'il il avait signé enfin Le Bon à tirer et tout, il dit à son éditeur, « Ah, alors maintenant que l'intérieur du livre s'est fait, parlons de la couverture. » Et il a réclamé à son éditeur que Les Fleurs du Mal soient reliées en peau humaine. Et il disait, c'est un livre sur l'âme humaine. Ce serait bien qu'il ait un vêtement humain. Et de femme, évidemment, sans blague. Et voilà. Et alors, il s'interrogeait énormément. Il disait, la peau du dos est certainement mieux pour faire une couverture parce qu'elle est plus épaisse. Mais, bien que, peut-être qu'elle est trop fine, la peau d'un sein serait très jolie. Parce que avec le mamelon tanné qui serait au milieu de la couverture en médaillon central, ça donnerait un petit cachet supplémentaire au livre. Et l'éditeur, que son Poulet Malassi, que lui a toujours appelé Coco Malperché, c'est bon. Et lui dit, mais il en revenait pas de ce qu'il entendait, l'éditeur. Et là, il lui a dit une phrase formidable. « Mon cher Baudelaire, il y a des fois où je doute de votre état mental. Il y en a d'autres où je n'en doute plus. Et c'est la plupart du temps. »
Il l'a fait, ce livre, avec la peau de sein.
Et alors...
Il l'a fait vraiment ou pas?
Mais alors, ça, c'est le mystère, parce que Baudelaire fait « Oh là 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 là, mais il faudrait savoir se détacher des conventions et tout. » Il dit « De toute façon, j'en ferai faire un exemplaire, et je sais à qui je le donnerai. » Et tout, on se dit, c'est à la mer, hein, forcément. Et il dit « Je me fais fort de trouver un petit interne d'une faculté de médecine, et à qui je demanderais de prélever la peau d'une Maccabée. Je préférerais qu'ils choisissent une femme condamnée à mort, et si possible pour infanticide. » Et tout, on revient toujours au truc. Hein. Et ce qu'on sait, c'est que quand il y a eu la première édition des Fleurs du Mal, il a voulu... il avait emballé et voulu offrir un exemplaire des Fleurs du Mal à sa mère, en lui disant « J'ai trouvé un relieur de la rue du Bac qui a fait pour toi une reliure très spéciale. » Il dit « Parce que je ne voulais pas pour toi une couverture ordinaire. » Et ce qu'on sait, c'est que la mère, elle a refusé. Elle n'a même pas vu la couverture. Elle a refusé en disant « Je ne veux pas un livre qui a été... recevoir un livre qui a été condamné par la justice et dont l'auteur a été poursuivi. » Et donc...
On ne sait pas ce qu'est devenu ce livre.
Ben voilà. Et c'est pour ça que moi, dans mon roman, il y a un flou et tout. Et est-ce qu'il l'a vraiment fait? Et c'est bien possible, parce que il allait au bout du bout. Hein.
Mais Jean Tellier, qu'est-ce que vous avez avec les crapuleux ou les histoires crapuleuses dans vos écritures?
Ah, je sais pas, il me botte.
Comment vous expliquez ça?
Ah, j'en sais rien. Je crois que souvent j'accuse ma mère. Et toujours la mère. Moi, quand j'étais enfant, mes tout petits enfants, ma mère me racontait que des faits divers, mais horribles. Que des trucs qui se passaient, mais dont je me souviens encore et qui me tétanisaient et tout. Et je crois que du coup, j'ai été baigné dans ce lait-là et que j'ai jamais réussi à m'en défaire. Je me rappelle qu'une fois, ça m'avait fait faire des cauchemars pendant des nuits. Elle m'avait raconté qu'il y avait un type sur une route qui était à moto et qui a voulu dépasser un camion qui transportait des plaques de tôle et tout. Et qu'au moment où il a dépassé le camion, une plaque de tôle a glissé et que le type à moto s'est trouvé la tête coupée et qu'il continuait comme ça...
Sans tête.
Putain, les cauchemars que ça m'a fait faire, ces trucs-là. Elle me racontait que des trucs horribles comme ça. Voilà. Je suis aussi traumatisé que Baudelaire l'a été. J'aurais même peut-être préféré que ma mère se marie avec un commandant plutôt que de me raconter ces histoires à la con. Alors maintenant, je me venge sur les autres. C'est les autres maintenant qui doivent lire mes horreurs.
Est-ce que la poésie fait partie de votre quotidien? Est-ce que vous en écrivez, la poésie?
Ah non, 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 j'en écris pas, non, non.
Mais
ah
vous
non.
En lisez tous les jours?
Pas tous les jours, mais oui, oui, mais oui.
Ça fait partie de vous?
Oui, 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 oui. Mais en même temps, pas toujours. La poésie, la plupart du temps, c'est quand même vraiment emmerdant. Alors, à 98% du temps, moi souvent, quand je vais dans les à cause de mes livres, quand je vais dans les salons du livre et les librairies, tout ça, il y a souvent des gens qui me disent: ah, vous qui aimez la poésie, j'en écris, ils me donnent un recueil de poésie. que j'essaye de lire à chaque fois au retour dans le train. Ça me dit mais que c'est chiant la poésie. Et mais quand c'est pas chiant, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Mais et moi j'ai le sens du ridicule au moins. Et connaissant et aimant des mecs comme Rimbaud, Verlaine, Villon, François Villon et Baudelaire, alors là je me vois pas écrire un vers. Mais j'écris un vers, je dis oh là 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 là, mais à côté des autres.
Et vous, qu'est-ce que ce sera ma dernière question. Et vous, qu'est-ce que vous avez déjà fait avec un tel culot? Parce qu'on peut parler de culot quand même, ouais, pour Baudelaire. Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous amuse et qu'est-ce que vous, vous avez déjà fait dans votre vie qui puisse...
Et vous imaginez que je vais vous répondre?
Ah oui.
Bah, sûrement pas.
Bah, oui.
Et c'est vrai que j'ai fait des fois des trucs, voilà. Mais
on en dira pas plus.
Mais alors là, d'ici
ah,
que
non,
je le dise...
Ah non, c'est sympa, j'en
mais attendez, les... si ça se trouve, tous ces gens-là ont une bonne image de moi. si je vous réponds... Non, ça c'est...
Mais vous avez le sens du culot quand même aussi.
Ouais. Des fois, je suis allé... Mais, secret défense.
Okay. Merci Jean Tellet.
Merci à vous. Merci à vous tous.